Bonjour, bienvenue à Aime l'été, jeudi 14 juillet, fête des Français. On vous salue tous. Les célébrations qui ont déjà une bonne longueur d'avance en France et ici à Montréal, la Grande Roue va prendre ce soir les couleurs bleu, blanc, rouge. Et on fête ça comme à l'habitude à l'Union française. Cela dit, je vous invite à un autre rendez-vous avec des invités qui ont plein de choses à raconter, des visites lumineuses, des expositions instructives et surprenantes, des endroits de détente uniques qui ravivent nos souvenirs et toujours de la culture et de la musique au menu. Voici Aime l'été. Et nos sujets ce midi, nous allons parcourir un sentier lumineux immersif et ludique, celui de Wendake, créé par Moment Factory. Nous allons nous intéresser à l'exposition religieuse, enseignante et scientifique présentée au site historique Marguerite Bourgeois à Montréal. La renaissance du théâtre de Verdure, et oui, après 8 ans de fermeture, on retrouve ce lieu de culture unique au cœur du magnifique parc La Fontaine. Mais d'abord l'été, un moment idéal pour s'occuper de soi. Une nouvelle chronique aujourd'hui, bien-être, et oui, dans les prochaines minutes. Alors, pour l'heure qui suit, joignez-vous à nous à Aime l'été.
Prends soin de toi, parce que je n'ai pas su le faire. Je vais me resservir un verre, puis un deuxième. Je ne respecte pas les règles, je ne respecte pas les thèmes. Je souhaite la mort au port, je reviens de l'aéroport. Les tentes, ils veulent me jeter des sorts, même si t'es vegan. Je t'invite à manger tes morts, je t'invite à manger tes morts. J'ai du bon taga dans ma tabatière. Je suis dans le RS4, y'a pas de marche arrière. La fumée s'échappe de la vitre arrière. Soit t'es avec nous, soit tu niques ta mère. J'ai le moral au sol, j'ai le karma au sol. Déçu de la vie comme une femme enceinte d'un viol. J'ai le moral au sol, j'ai le karma au sol. Déçu de la vie comme une femme enceinte d'un viol. Prends soin de toi, parce que je n'ai pas su le faire. Je vais me resservir un verre, puis un deuxième. Je ne respecte pas les thèmes, je ne respecte pas les règles. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Prends soin de toi, parce que je n'ai pas su le faire. Je vais me resservir un verre, puis un deuxième. Je ne respecte pas les thèmes, je ne respecte pas les règles. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes. J'ai passé ma vie à traîner dehors, être posté en bas. Je suis dans le sale, raconte pas ton dos. Je suis pas ostéopathe, j'ai perdu le nord. J'ai fait tout ce que maman voulait pas que je fasse. Et je m'endors sur une ou deux, trois liasses, sur une ou deux, trois tasses. Et je pourrais juste le montrer, je pourrais pas te le dire. Moi, j'ai tellement peur de celui que je suis en train de devenir. Et je m'en bats les couilles de l'eau qui dort. Je me méfie des impôts. Si tu connais pas toute ta famille, c'est que t'es encore pauvre. J'ai le moral au sol, j'ai le karma au sol, déçu de la vie comme une femme enceinte d'un viol. J'ai le moral au sol, j'ai le karma au sol, déçu de la vie comme une femme enceinte d'un viol. Prends soin de toi, parce que je n'ai pas su le faire. Je vais me resservir un verre, puis un deuxième. Je ne respecte pas les thèmes, je ne respecte pas les règles. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Prends soin de toi, parce que je n'ai pas su le faire. Je vais me resservir un verre, puis un deuxième. Je ne respecte pas les thèmes, je ne respecte pas les règles. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Je suis pas raisonnable, parfois j'hallucine. J'allume un négro, puis j'allume une diptyque. Je suis pas raisonnable, parfois j'hallucine. J'allume un négro, puis j'allume une diptyque.
Prends soin de toi, une pièce du rappeur français Dinos et une chanson reprise par Emma Peters, cette jeune chanteuse française née en 1996, auteure, compositrice, interprète, qui, grâce à sa chaîne YouTube et ses nombreuses reprises de chansons à succès, qu'elle enregistre dans sa chambre, est suivie par plusieurs millions de personnes. Emma Peters, qui a sorti son premier album de composition originale en mars dernier, intitulé « Dimanche ». Il est important, en effet, de prendre soin de soi. Notre première chronique bien-être, ici même, à Aime l'été, va nous aider dans ce sens. On entame cette nouvelle chronique aujourd'hui avec Julie Châtelain. Bonjour!
Bonjour, Chantal!
Ah, ça fait plaisir de vous accueillir.
Oui, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Ah, parce qu'on va tâcher vraiment de profiter de cette période estivale pour prendre soin de nous. Vous savez, en début de semaine, on a justement abordé le sujet de la santé mentale et on faisait le lien entre santé mentale et l'été. On a discuté du fait que la santé mentale ne prend pas de vacances l'été.
Non.
Alors, c'est ça. Donc, effectivement, puis il y a même un lien véritable à faire avec le fait qu'il fasse plus chaud. Hein. On parle de médication. Certaines médications même peuvent avoir un effet sur l'organisme et sur notre santé mentale quand il fait plus chaud. Alors, c'est intéressant. En tout cas, chose certaine, nous, on va se trouver des trucs pour être mieux tout au long de cette période estivale. Alors, Julie, vous êtes éducatrice spécialisée de formation. Vous avez quand même plusieurs études dans le domaine de la relation d'aide, dis-je bien, et du bien-être.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai un pas pire coffre d'outils bien rempli et ça me permet... de faire ce travail-là d'intervenante depuis plus de 15 ans.
Ah, quand même, hein? Alors, c'est ça. Donc, alors vous avez à la fois, vous êtes intervenante, vous avez aussi quand même votre expérience personnelle, quand même.
Oui, 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 ben oui, exactement. Moi, j'ai un handicap visuel dégénératif, une situation quand même assez atypique. Ce qui veut dire que j'ai vécu beaucoup d'opérations, toutes sortes de situations assez traumatisantes et j'ai dû moi-même puiser dans mon bagage et d'intervenante, mais aussi de mon expérience parce que je me rendais compte que je devais le faire par moi-même. Là. Il n'y a personne qui allait me dire que je devais faire des stratégies pour mieux me sentir et c'est comme ça que c'est devenu finalement une force. Mm-hmm. Puis un levier dans mes interventions.
C'est ça, ça commence souvent par nous-mêmes, au fond, hein, de nos propres besoins.
Complètement.
Notre premier sujet aujourd'hui, Julie.
Oui.
Alors, ça va être la pyramide de... On parle de la pyramide de Maslow, qui peut nous aider vers un mieux-être, enfin, nous aider à mieux se comprendre d'abord et nous aider aussi dans la recherche du mieux-être.
Oui, exactement. Et parce que moi, je commence par la pyramide de Maslow parce que c'est quelque chose souvent qui est quand même assez accessible. Les gens, ils ont souvent entendu parler de la pyramide de Maslow dans un cours à l'école. Mm-hmm. Et c'est quelque chose que rapidement, on fait « Ah oui, c'est vrai et c'est simple à comprendre ». Donc, c'est pour ça que je voulais commencer avec ça pour amener, parce que moi, je trouve ça important d'amener quand même assez du concret. Oui, c'est du bien-être, de la santé émotionnelle, prendre soin de soi, mais il y a quand même quelque chose qui est très... il y a quand même une logique dans la pyramide de Maslow parce que c'est comme des étapes.
C'est ça. Il y a une hiérarchie au niveau des besoins. C'est un peu la base là, de cette théorie-là, là, finalement. C'est un rapport avec nos besoins fondamentaux, en premier.
Oui, exactement, c'est ça. Et... c'est vraiment un psychologue, Abraham Maslow, qui a réalisé dans le fond, après plusieurs études, plusieurs observations, qu'il a créé en fait une théorie de la motivation, puis il se rendait compte que c'était élaboré avec la pyramide de Maslow. Donc, ça part de la base et plus on va travailler vers des besoins en hauteur, là, donc des besoins profond, eh bien, plus on va pouvoir aussi avoir plus de succès, avoir une meilleure vie, finalement.
C'est ça. Donc, on commence par travailler sur la base. La base étant...
Exactement.
C'est ça, vous allez nous donner un petit peu la base là, de cette pyramide-là.
C'est ça. Moi, je vais vraiment y aller par étapes. Je trouve ça plus facile. Bien, en fait, la base, c'est les besoins physiologiques. Ces besoins-là sont liés à la survie des individus et de l'espèce. Ça, on ne s'en sort pas, là. On est des mammifères, on est des primates. Puis au départ, on a besoin de quoi? De respirer, boire, manger, dormir, se reproduire. Mm-hmm. Ça, c'est les besoins qui sont vraiment au niveau de la base. Ça veut dire que si en ce moment... Bien, de toute façon, si je suis dans une situation où est-ce que je ne peux pas manger, je ne peux pas boire de l'eau, j'arrive pas à dormir... ça va être très difficile de passer à la seconde étape et éventuellement de vouloir avoir une belle vie épanouie.
C'est ça. La deuxième étape étant le besoin de sécurité.
Oui, c'est ça. Besoin de sécurité, vraiment, là, on est encore au niveau du mammifère, mais là, c'est vraiment au niveau de se protéger des différents dangers qui nous menacent. C'est un besoin d'avoir un logement, une maison. Et là, en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, les
Absolument.
Gens qui se sont trouvés qu'il n'y avait pas de logement, Et c'est ça, donc c'est vraiment la sécurité du revenu. C'est quand même complexe parce que là, avec l'inflation, tout ce que ça amène, les besoins de base, donc la première étape et la deuxième étape sont vraiment, c'est plus très stable. Tu sais, il y a beaucoup de trucs qui peuvent amener beaucoup de stress par rapport à ces besoins-là de la base.
C'est ça, ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis, dans nos sociétés. Et on le voit, là, justement, les gens qui cherchent du logement, évidemment, l'inflation et tout. Alors, ça crée beaucoup de stress, en effet.
Exactement. Et si on ajoute avec ça qu'on a un handicap, parce que j'en ai un, donc je sais ce que ça veut dire aussi. Mm-hmm. Donc là, tout d'un coup, on a toute cette notion-là de plus qui s'ajoute. D'être en mesure, parce que la clientèle qui a un handicap, ce n'est pas ceux qui sont les mieux... ceux qui ont le meilleur salaire, qui ont les meilleures conditions de travail.
C'est sûr.
Même juste au niveau des transports adaptés, il y a eu une grève.
Absolument, vous avez raison.
Et tout d'un coup, c'est plate, vous ne pouvez pas aller travailler, désolé, vous perdez une journée de travail, alors que c'est des sous qui sont très, très, très importants. Fait que c'est pour ça que là, en ce moment, les deux niveaux sont vraiment plus à risque en ce moment.
C'est ça. Ensuite, il y a ce besoin d'appartenance qui consiste à quoi?
Le besoin d'appartenance, en fait, c'est le besoin du réseau. C'est le besoin de se sentir aimé et d'être aimé. Donc, c'est avoir des relations saines, c'est de faire partie d'un groupe, c'est d'être accepté. Donc, en ce moment, est-ce que je sens que la société est inclusive? Hein? C'est ça. Donc, ça peut m'amener à me sentir rejetée, isolée, en grande détresse. Et là, comme je vous dis, on y va par étapes. Donc, si on ajoute que j'ai de la misère à arriver à la fin du mois, bien, tout d'un coup, mon besoin d'avoir des relations autour, et c'est comme plus une priorité, là. Ça devient plus difficile.
Oui, c'est ça. Après ça, bien, évidemment, le besoin d'estime également, oui.
Oui, exactement, parce que le besoin d'estime... On veut devenir quelqu'un. C'est la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes et c'est la valeur que les autres vont nous accorder. Donc, c'est vraiment le respect de soi-même, de nos pairs. C'est un besoin de considération, de reconnaissance, de confiance en soi.
C'est ça. Et malheureusement, là, avec Facebook et les réseaux sociaux, souvent, on va tout de suite à cette étape-là. Il faut que satisfaire ce besoin d'estime. Alors, c'est sans avoir franchi toutes les étapes de notre pyramide, finalement.
Oui. Non, c'est ça. C'est en ce moment, à ce niveau-là aussi, c'est un gros défi au niveau des réseaux. Et c'est ça qui fait que ça amène à la cinquième étape. Puis là, la cinquième étape, c'est si je suis en mesure de boire, de manger, de dormir suffisamment, que je me sens en sécurité, que je me sens appartenir à un groupe et que je peux m'accomplir et me réaliser, eh bien là, je vais au sommet, ce qui veut dire que c'est les aspirations humaines, c'est le besoin de participer, de contribuer à l'amélioration de la société et c'est de mettre en valeur mon plein potentiel dans tous les domaines de ma vie.
C'est ça. Il y a maintenant... continuez.
Oui. Mais pour ça, la base doit être très solide.
C'est ça. Et puis, bon, il y a les stratégies rapidement. On y reviendra peut-être la semaine prochaine, mais en tout cas, juste rapidement, nous donner quelques stratégies.
Oui, les stratégies, vous allez voir, ça va souvent se ressembler. Mais la première chose, c'est de s'arrêter puis c'est de respirer parce qu'on va vivre de l'anxiété quand nos besoins ne sont pas répondus. Ce qui veut dire que si j'ai plus de stress, plus d'anxiété, j'ai plus de cortisol à ce moment-là, ça vient augmenter mon rythme cardiaque. Donc, le fait de baisser, de ralentir, tout d'un coup, ça va me permettre que mon cerveau, il va être plus en mesure de réfléchir puis de s'auto-réguler.
C'est ça. Et puis, évidemment, l'exercice est essentiel.
Et bien évidemment. Parce que d'un côté, c'est la détente, c'est se relaxer. Puis de l'autre côté, c'est de bouger. Mais bouger aussi, qu'est-ce que ça fait? Ça va créer un mouvement, puis ça va faire que je vais mieux respirer aussi. Et ça va faire un vide mental. À ce moment-là, ça va m'aider. Et il y a aussi, moi, j'utilise l'échelle de 0 à 10. Donc, je prends le temps de regarder les besoins, de tous les besoins, et je regarde de 0 à 10. Je me situe où? 0 étant, il n'y en a pas, si c'est pas satisfaisant. Et 10, c'est merveilleux. Mm-hmm. Donc à ce moment-là, je regarde, puis ça me permet, ça me peut me donner, ça peut m'aider pour après ça voir qu'est-ce que j'ai amélioré.
Exact. Établir de nouvelles stratégies. Alors voilà.
Exactement, c'est
Et
ça.
Puis, n'hésitez pas aussi, ne pas hésiter à consulter, en parler, comme vous dites, en vider votre sac, c'est important.
Oh oui, c'est très important,
oui.
Exactement. Puis oui, c'est l'été, mais c'est là que c'est un bon moment pour se regarder. On est déjà plus calme, plus reposé l'été de façon générale.
Oui, de façon générale.
À ce moment-là, c'est un bon moment pour prendre du temps pour soi,
ouais.
Pour voir qu'est-ce qu'on peut changer puis améliorer.
Parfait, Julie. Bon, on prend ça en note et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, parfait.
Au plaisir.
Au
revoir,
plaisir.
Passez une bonne
Au
journée.
Revoir.
Merci.
Bye-bye.
Bye-bye.
Chakuna liangwe Einstein go anigo Vai garo ke kage je sai ko sai go anigo Me go da ki na ge na star and go anigo Ara boda mal ka me no ne perfect na ma jeom jeo ba Na singgae man na munje ya munje Mori seom man jeo da bomyeon mo hae Gatje sigan ne dam ne sigan ne Better make a move. No pain, no science, no need, no license. 말이선 내고 고민할 수 minus. Don't try to be a genius. So why so serious? 맘이 가는 대로, 맘이 시킨 대로. Watch what you waiting for. 그래 뭘 안 했어 그동안 나에 대해. Time to make a move. So what's the next best thing? 날 연구해봤자 이런 식이면 failure 부단히로 바뀌어드는 내 맘은 못 풀어내고 넌 생각이 많아 문제야 문제 머릿속만 들여다보면 뭐해 각질 시간 내 땀낼 시간 내
Et c'était Twice, ce groupe sud-coréen de filles formé en 2015, composé de 9 membres qui interprétaient la pièce Scientist. Elles étaient en tournée au cours de la première moitié de 2022 aux États-Unis. Twice, qui est aussi le premier groupe féminin étranger à se produire 3 jours de suite au Tokyo Dome, qui peut quand même accueillir 50 000 personnes à la fois. Alors voilà, et puis cela dit, eh bien, vous savez, depuis avril dernier, le site historique Marguerite Bourgeois présente une nouvelle exposition qui conjugue la science au féminin. L'exposition religieuse, enseignante et scientifique raconte comment, dès le 19e siècle, les Ursulines et la Congrégation de Notre-Dame ont mis sur pied des programmes novateurs d'enseignement des sciences destinés à leurs étudiantes. Et on en parle à l'instant avec Jean-François Royal, directeur général du site historique Marguerite Bourgeois. Bonjour!
Bonjour.
Ah, mais quel beau sujet! Vraiment, alors, ces enseignantes qui étaient des pionnières, qui utilisaient des moyens quand même avant-gardistes pour transmettre les connaissances scientifiques, susciter l'intérêt des filles, en tout cas pour la science.
Tout à fait, c'est un sujet en or. On a fait plein de belles découvertes avec la recherche là, pour ce projet qui a duré près de 2 ans. Vraiment, on a été d'étonnement en étonnement, de surprise en surprise. On savait qu'il y avait un potentiel à exposition très fort et on est très content et heureux du résultat de ce qu'on présente au public.
C'est ça, parce qu'en fait, vous avez trouvé, il y a des objets scientifiques qui ont été trouvés et qui sont montrés dans l'exposition. Alors, bon, ça, c'est les collections de musées, finalement, qui nous révèlent ces objets. Alors, vraiment, on va voir comment tout ça se développe aussi à travers évidemment, l'histoire, tout ça. Alors, parlez-nous-en un petit peu de comment ça a commencé, finalement, le recueillement d'informations à ce sujet.
Bien, en fait, c'est un projet donc avec, vous l'avez dit, le Musée des Ursulines de Trois-Rivières, deux communautés d'enseignantes. On avait le goût de travailler ensemble sur justement l'apport de ces communautés dans l'enseignement chez les jeunes filles. Puis on connaissait les matières classiques, là, français, mathématiques et tout, mais on voulait aller au-delà de ça. Et les Ursulines possédaient dans leur collection vraiment des richesses au niveau d'objets scientifiques là, qui servaient à l'enseignement. Et donc, c'est à partir de ça qu'on a commencé à regarder quand est-ce et comment les sœurs se sont mis à enseigner les sciences. Puis là, bon, on a découvert, entre autres, dès le 19e siècle, les parents des élèves catholiques à Trois-Rivières menaçaient d'envoyer leurs enfants dans les écoles protestantes parce que le cursus scolaire était mieux développé.
Exactement.
Dans les écoles
on enseignait les sciences.
Et voilà. Et donc, c'est à suite de ça qu'on a donc, entre autres, développé le cursus scolaire pour former ces jeunes femmes aux études scientifiques, mais somme toute pour être de meilleures femmes au foyer, malheureusement.
Oui, parce qu'en réalité, oui, c'était pas pour les former, pour qu'elles aillent nécessairement sur le marché du travail, là. C'était au niveau des connaissances, mais...
C'était vraiment des connaissances générales, mais on allait de façon très, très poussée, là. On enseignait la géologie, la botanique, l'astronomie, mm-hmm. la physique, la chimie, et donc ces jeunes filles avaient des connaissances élémentaires de plus que de base, là, qui étaient vraiment très bien. Et certaines ont quand même percé et eu des carrières scientifiques, là, malgré tout, là.
Oui.
C'est ce qui est quand même très intéressant dans le sujet.
Tout à fait. Évidemment, c'était des jeunes filles de bonne famille, hein, puisque quand même, c'était des filles de conditions privilégiées, ça c'est certain. Mais n'empêche que, comment les sœurs elles-mêmes s'étaient formées au niveau des sciences? C'était des sœurs qui avaient étudié en Europe?
En fait, c'est des sœurs qui, il y avait deux courants de pensée ou de façon de faire. Les sœurs allaient soit se former effectivement en Europe auprès de scientifiques reconnus, ou elles faisaient venir des conférenciers. Donc, elles avaient des gens qui, pour elles, allaient acheter le matériel scientifique qui était ramené pour l'enseignement dans les classes. Donc, on peut en voir des exemples dans l'exposition. C'est certain que pour le visiteur, ça peut paraître un peu vétuste et vieillot et même un peu bizarroïde parce qu'on ne sait pas trop à quoi servaient ces appareils. Mm-hmm. Mais il faut comprendre qu'à cette époque, on avait là des appareils à la fine pointe de la technologie, là. Donc, on se servait de ce qu'il y avait de mieux. Et on allait donc ainsi se former. Il y a même, entre autres, on parle de sœur La Coursière, qui est une géologue.
Ouais.
On a des sommités chez les religieuses qui ont vraiment fait avancer la matière scientifique et qui ont fait progresser leur domaine là, à tout point de vue et qui ont été reconnues par leur père par multiples distinctions. Là. Donc, il y a même de ces enseignantes qui sont devenues des scientifiques célèbres et notoires. Là.
C'est ça. Donc, il y avait une forme d'émulation aussi entre les écoles catholiques et les écoles protestantes où il y avait effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, déjà de la formation en sciences qui s'y donnait. Alors c'est ça maintenant. Vous parliez de personnalités connues qui sont sorties de ces écoles. On pense à la botaniste Marcel Gauvreau, notamment.
Oui. Oui, oui, qui a étudié avec le frère Marie-Victorin et qui a été une étudiante de ces écoles qui on n'a pas de preuves documentaires qui nous dit que l'étincelle s'est faite dans ces cours qu'elle a reçus par les religieuses, mais on peut se douter qu'en ayant une carrière scientifique et en ayant eu un cursus de cette qualité, il y aura eu une étincelle qui s'est faite inévitablement. Là. Donc, on a quelques biographies de pionnières qui ont défoncé ces plafonds de verre parce que c'était une de nos questions qu'on se posait justement, pourquoi il n'y a pas plus de femmes en sciences aujourd'hui si on les enseigne depuis si longtemps.
C'est ça. Mais évidemment, il y avait l'Église qui disait qu'il fallait quand même être des femmes au foyer. Ça, c'est certain que ça n'aidait pas à la cause.
Pas du tout, en fait, je vous dirais. Il y avait ça et il y avait la société qui n'était pas nécessairement prête à voir arriver. C'est ouverte à ça. Mais c'est le paradoxe, en fait. C'est un peu le coup de cœur, pas le coup de cœur, mais le coup dans le cœur qu'on a quand on visite cette exposition-là, de se dire, ben on aurait pu avoir plus de carrière scientifique s'il y avait eu cette ouverture de société à ce que les femmes occupent une meilleure place.
Et puis, il y a de nombreuses pièces d'archives qui nous montrent aussi la position, le point de vue féminin, finalement, parce que, il y a des étudiantes qui... on a accès même aux travaux de certaines étudiantes.
Oui, oui, en fait, parce que, vous l'avez dit tantôt, il y avait une espèce d'émulation entre écoles protestantes catholiques, mais aussi entre écoles de ville et écoles de campagne. Et, entre autres, on a envoyé des travaux d'élèves à l'Exposition universelle de Paris en 1900, l'Exposition universelle de Chicago aussi. Donc, les élèves étaient récompensés par leur qualité du travail qu'elles fournissaient et on envoyait ces travaux-là en présentation dans les expositions universelles. Et donc, on voit un travail sur le système solaire avec rédaction, mais le système solaire fait à la main. C'est des travaux qui sont d'une beauté esthétique incroyable, mais avec un contenu aussi très pertinent et à propos.
D'accord.
Et on parle d'élèves là, qui ont 14, 15, 16 ans.
Oui, quand même. Ouais.
Quand même. Donc, c'est vraiment intéressant de voir. On a même un jeu didactique où on vous pose les questions d'une étudiante de 18 ans sur le pommier.
Donc, écoutez, religieuse, enseignante et scientifique à voir, au musée Marguerite Bourgeois, au site du musée Marguerite Bourgeois, tout juste à côté de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours.
C'est ça. Donc,
merci.
C'est présenté jusqu'en avril.
Oui, donc. Alors, c'est un plaisir de vous avoir accueilli. Et puis, bon été à vous.
Bien, merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Et deuxième demi-heure de Aime l'été. J'en profite pour remercier Claire Guérin à la recherche pour cette émission, ainsi que Nicolas Zwartmann à la mise en onde. Je remercie également nos autres collaboratrices à la recherche, Méliane Fafard, Camille Cusset, Catherine Bourderon, une merveilleuse équipe. Alors, demain aussi, j'aurai le plaisir de retrouver à la mise en onde Mathieu Tessier. Vous savez, l'été, c'est une saison bien courte. On essaie d'en profiter comme on peut. C'est une période idéale pour refaire le plein d'énergie, pour s'occuper de soi, comme on le disait tout à l'heure Julie Châtelain, notre première chroniqueuse bien-être. Voilà, j'essaie d'en dire trop. Vous savez, tous les matins, moi, j'en profite à ma façon. En tout cas, en venant à la station, je traverse tous les jours le magnifique parc La Fontaine. Je dois dire que depuis que j'anime tous les midis ici, Aime l'été, on a eu jusqu'ici de belles journées, de belles matinées. Alors, le temps s'arrête pendant que je traverse comme ça ce merveilleux parc La Fontaine quand je viens travailler. Et puis, nombreux sont ceux, bien sûr, qui s'y promènent seuls ou accompagnés. en faisant leur jogging matinal. Certains y font la lecture, d'autres y viennent pour se balader avec leur chien. Et puis, vous savez, je me plais régulièrement à observer que les chiens et leurs maîtres se ressemblent vraiment. En tout cas, de façon générale, c'est très drôle. Vous avez peut-être vous-même fait l'exercice. En tout cas, on dirait que ça marche à tout coup. Cela dit, le parc La Fontaine, qui me rappelle, vous savez, des souvenirs d'enfance et de jeunesse, mes grands-parents qui habitaient au coin de la rue Cherrier face au parc La Fontaine. Alors, nous allions ainsi nous balader au parc La Fontaine au temps du Jardin des Merveilles. Alors, voilà le Jardin des Merveilles qui était situé tout près de l'actuel emplacement du théâtre de Verdure qui vient de réouvrir après des années de travaux et d'aménagement. Ce nouveau théâtre de Verdure qui est vraiment à découvrir, on va justement en parler dans un moment avec notre prochain invité. Mais en guise d'introduction, voici en chanson un souvenir de 1957.
La fontaine, les filles s'en vont et s'y promènent aux bras des garçons qui les entraînent au cœur des buissons où elles étreignent l'amour en saison qui les enchaîne dans un tourbillon de vrais poèmes car dans les frissons naissent toujours les plus belles chansons d'amour. Au clair de la fontaine, j'ai vu dans tes yeux mille couleurs. Quand la claire fontaine s'amusait au jeu de nos deux cœurs, pour mieux qu'on se souvienne longtemps de ce vieux parc, la fontaine qui dans tes grands yeux fit naître un jour la plus belle chanson d'amour. De ce printemps qui fit fleurir tous nos 16 ans. Chérie, dis-moi, te souviens-tu de cet émoi naissant dans nos âmes ingénues? Au parc La Fontaine, comme il faisait bon lorsqu'en nous-mêmes naissait la chanson qui nous entraîne dans le vieux buisson, comme aux anciennes et douces saisons qui nous entraîne dans le tourbillon de vrais poèmes, car dans ces frissons naissent toujours les plus belles chansons d'amour. La vie qui nous mène sous les vieux rameaux amène les tendres échos de ces années. Joli parc La Fontaine, le dernier frisson de ce poème put-il son façon être aujourd'hui la vraie chanson de notre vie. Le dernier frisson de ce poème peut-il son façon être aujourd'hui la vraie chanson de notre vie.
Et oui, Parc La Fontaine, chanson interprétée par Lucille Dumont. Ça remonte à 1957. Hein? Lucille Dumont, qui a connu une carrière aussi à la radio et à la télévision, elle a enseigné le chant. Elle est décédée en 2016 à l'âge de 97 ans et elle a eu une carrière quand même bien remplie. Eh bien, parlant de parc, du parc La Fontaine, on va en parler à l'instant avec Marianne Giguère, l'élu responsable du parc La Fontaine pour l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Bonjour, Julie.
Bonjour, c'est Marianne, en fait.
J'ai dit, pourquoi je dis Julie? Oui. Voyons, je suis mélangée dans mes noms. Mais Marianne.
Vous m'aviez bien présentée.
Ben, je ne sais pas. Après ça, j'ai parlé de Julie. Bon, il y a eu bien des Julie, des invités qui s'appelaient Julie aussi ces derniers
j'en
temps.
J'en doute pas, j'en connais des aussi des Julie.
Voilà. Donc, écoutez, Marianne, au printemps 2018 et à la suite de discussions quand même entamées avec les citoyens, notamment au sujet de l'avenir du parc La Fontaine, la Ville de Montréal avait présenté justement son plan directeur et il y avait une bonne cinquantaine d'orientations qui devaient guider les interventions à l'échelle du parc, touchant d'ailleurs tous les aspects, là, bâtiments, sentiers, végétation, art public. Alors l'objectif visé, là, c'est 2028 apparemment pour que le parc La Fontaine retrouve vraiment une nouvelle jeunesse, si on veut. C'est ça?
Oui, c'est à peu près ça. En fait, ça a été divisé en plusieurs étapes. Là, c'est un plan sur plusieurs années, le plan directeur, là, parce qu'il y a vraiment de multiples interventions. Puis souvent, elles sont quand même assez coûteuses. Là, donc, on doit les étaler là, dans les budgets d'investissement de la ville. Là. C'est le service des grands parcs de la ville-centre qui est responsable là, du parc La Fontaine. La première intervention dont on voulait parler aujourd'hui, là, c'est celle du théâtre de Verdure.
C'est
ça. Là, j'imagine qu'on va y revenir.
Ah, bien, c'est sûr que c'est notre sujet principal.
Oui. Oui, c'est ça. Mais il y en a vraiment plusieurs autres, entre autres celle qui va être inaugurée bientôt, donc terminée. C'est la première phase sur les terrains de jeu, là, les espaces, ce qu'on appelle l'espace famille, où on avait des modules de jeu là, qui commençaient vraiment à dater. Ils avaient un petit look suranné là, qui pouvait être apprécié de certains, mais on est vraiment rendu ailleurs là, en termes de l'offre qu'on fait aux enfants là, pour aller pour jouer dehors dans nos parcs. Donc, très bientôt, la première partie là, qui est la plus à l'est va être inaugurée. Puis on est vraiment contente parce que on a vraiment mis une emphase spéciale sur l'aspect accessible de cette nouvelle aire de jeu-là qui va être vraiment pensée en fonction des enfants qui ont toutes sortes d'enjeux de motricité et donc qui pourront eux aussi là, profiter de ces nouveaux jeux-là. Il va y avoir des beaux jeux d'eau aussi là, pour se rafraîchir.
Ah, de toute façon, on voit qu'il y a beaucoup de travaux qui ont lieu en ce moment au Parc La Fontaine. Bref, on devait réouvrir finalement le théâtre plus tôt que prévu. Il faut dire que voilà, ça fait 8 ans quand même que c'était fermé, le théâtre de Verdure.
Oui, ça a été fermé en 2014. À ce moment-là, vraiment, ce qui était constaté, c'est que les installations étaient vétustes, n'étaient plus tout à fait sécuritaires, mais surtout, étaient devenues vraiment plus du tout appropriées là, pour les niveaux actuels là, qu'on a besoin.
C'est ça, ça datait de 1956. Là, quand même.
Exactement. Puis, c'est surtout au niveau de la technique. Hein. Maintenant, on a au niveau du son, de l'électricité, de l'éclairage, des installations scéniques, ça pouvait plus. On avait vraiment beaucoup de difficultés à recevoir les concerts, les spectacles qui sont conçus aujourd'hui. Donc, c'était beaucoup parti de ce besoin-là, mais aussi là, du besoin de rendre ça beaucoup plus confortable et accueillant, plus grand, plus vert.
Et puis, en fait, je me souviens, moi, effectivement, du théâtre de Verdure. Et puis, vous savez, c'était comme... c'était un lieu qui me faisait penser un peu comme le parc Belmont, tu sais, c'est le théâtre de Verdure. C'était des choses que tout le monde connaissait, puis ça gardait un cachet particulier. Mais bon, alors, il fallait le réinventer, façon de parler. Et puis, ça a été retardé, mais aussi, c'est qu'on voulait s'assurer que les plans, ou enfin que la conception même aussi, fasse l'affaire de tout le monde.
Bien, absolument. Puis surtout que la conception soit faite en fonction de l'idée, du concept initial de ce que c'est qu'un théâtre de Verdure, c'est-à-dire qu'il doit être parfaitement intégré dans son parc, dans son écrin de verdure, et pas déposé là comme un ovni gigantesque qui remplit surtout sa fonction de théâtre techniquement très, très avancé. Puis c'est pour ça que ça a été très long, parce que la première version, le premier plan là, qui avait été déposé, c'était très, très gros, c'était massif, ça faisait fi du contexte. Mm-hmm. Et à ce moment-là, c'est là qu'on avait dit, ben non, tu sais, on va refaire ce théâtre-là pour au moins les prochaines 50, 60 ans. Et, et on veut vraiment prendre le temps, mettre le soin de faire en sorte que la proposition architecturale soit vraiment en transparence, ait un dialogue avec le parc, avec les étangs. Et c'est pour ça qu'on avait un peu ramené les concepteurs sur la table à la table à dessin. Puis le Conseil du patrimoine était aussi d'accord avec nous. Là, quand je dis nous, on parle à la base des élus du plateau Mont-Royal à ce moment-là, parce que le comité consultatif d'urbanisme là, sur du plateau Mont-Royal avait vu le projet, puis pas seulement les élus, là, tous les professionnels qui sont sur ce comité-là avaient dit comme ouf!
C'est pas tout à fait
ça. C'est pas tout à fait ça. Donc, on a préféré prendre notre temps, puis comme on savait que la grande consultation pour le plan directeur là, dont vous avez parlé au début de l'entrevue, s'en venait en 2017-18, bien, on a profité aussi de cette consultation-là pour intégrer les éléments qui sont ressortis des attentes, des besoins de la population.
C'est ça. Puis maintenant,
au projet de théâtre.
Exactement. Puis il y a l'accessibilité aussi. On pense à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Maintenant, on pense à tout ça, là, les gens qui ont les lieux qui doivent être adaptés aux poussettes, enfin, les toilettes, hein. Bref, même pour des gens en fauteuil roulant. Tu sais, il y a plein de considérations maintenant dont il faut tenir compte, bien sûr. Puis il y a cette belle intégration à la nature du parc. C'est ça. Et donc là, le théâtre reprend vie. Donc, on veut stimuler la vitalité culturelle de la ville et puis en même temps soutenir les artistes et puis offrir une programmation aussi intéressante, accessible, gratuite, diversifiée.
Exactement. Vous l'avez vraiment bien décrite. Là. L'angle, ça a été vraiment une grande diversité pour cette première année du nouveau théâtre de Verdure. Là. Il y a 32 spectacles, comme vous l'avez dit, qui sont tous gratuits. C'est le principe du premier arrivé, premier assis, mais c'est très grand. On a 2500 places.
Au total, oui. Il y en a partie là-dedans où on peut s'asseoir sur le gazon et tout.
Il y a des places, c'est ça. Il y a beaucoup de places assises, puis il y en a aussi, c'est ça, sur l'herbe. Ça va vraiment toucher plusieurs grands domaines de la culture en général. Je pense que rarement, là, une programmation aurait été aussi diversifiée. Puis c'est Il faut souligner que c'est vraiment l'envergure de cette scène-là qui le permet, parce qu'elle elle peut accueillir un orchestre symphonique au complet.
Mais oui, on a l'Orchestre métropolitain qui s'en vient d'ailleurs en fin de semaine.
Demain et samedi, allez-y, c'est apparemment un très, très beau spectacle. On va avoir Inuzici aussi là, du côté classique, mais on va
avoir la danse.
Beaucoup de spectacles de danse, les grands ballets canadiens qui vont clore la saison au mois d'août, c'est vraiment des spectacles à très grand déploiement qu'on peut rarement présenter à l'extérieur, là, en dehors des grands théâtres intérieurs que l'on connaît.
C'est ça.
Du cirque aussi.
Tous les arts sont représentés. Oui, tout à fait.
Oui, c'est ça. Donc, il va y avoir des spectacles de cirque, du cinéma avec donc un grand écran. Puis évidemment, beaucoup de spectacles musicaux. Il y a des grands noms là, qu'on connaît.
Martha
là,
Wainwright, la semaine prochaine, vendredi prochain.
Oui, Jérôme 50, là, qui va certainement donner un très bon spectacle. Mais il y a aussi plusieurs artistes beaucoup moins connus du grand public. Je pense au quartet de Julien Filion, là, qui font une espèce de jazz fusion rock un peu expérimental, très immersif. Ça va être super intéressant d'aller voir ça.
Puis des artistes aussi qui représentent la diversité, bien entendu.
Absolument.
Et c'est ça.
Absolument.
Et puis, il y en a plusieurs. Cette année, là, c'est juste pour dire aux gens que cette année, la programmation va être un peu plus courte que prévu, c'est-à-dire qu'elle va se prolonger là, jusqu'au 26 août. Alors, c'est déjà en cours. Allez voir sur le site. Mais par la suite, vous voulez quand même ouvrir ça sur plusieurs saisons. Là, ce ne sera pas que l'été, je pense. Hein?
Bien, ce serait vraiment intéressant de pouvoir effectivement agrandir la saison, trouver des façons d'avoir des happenings culturels sur le site qui soient en toute saison, même en hiver. Tu sais, c'est sûr que c'est peut-être pas le même. On peut pas avoir un orchestre qui
joue. Non, c'est sûr, on comprend.
Je déplorerais beaucoup la douleur au doigt.
Ouais.
Mais il peut y avoir toutes sortes d'autres choses. Donc, tu sais, c'est à souligner que le site est contrairement à l'ancien théâtre de Verdure, est ouvert au public. C'est-à-dire que même en dehors des soirées où il y a des spectacles, les gradins sont accessibles. On peut marcher sur le trottoir qui fait le tour de l'étang entre les gradins et la scène. Bon, la scène, elle ne l'est pas, mais donc on a voulu le rendre aussi beaucoup plus qui participent beaucoup plus à la vie du parc.
C'est ça.
Et il y a moyen, il y a une espèce de placette là, qui est là devant la scène qui peut servir aussi à faire des petites présentations de moins grande envergure.
C'est
ou impromptues.
Ça, des présentations improvisées, voilà. Eh bien, Marianne...
On vise de l'utiliser le plus possible.
C'est ça, vous avez de grandes idées, de grands projets. Marianne Giguère, merci bien d'être venue nous en parler. Et puis là, on termine un petit peu l'aménagement paysager, mais tout est là, tout est en place au nouveau théâtre de verdure.
C'est exactement. Ben, venez
merci
faire votre
beaucoup,
tour. On est,
absolument.
On est ravis d'accueillir tout le monde.
Au revoir.
Merci,
et bonne journée, bon été au théâtre de verdure et au parc La Fontaine. Au revoir.
Oui, au revoir.
Souvenons-nous, bien avant nous, ils ont marché sur cette terre rouge. On voit ça, hey, on voit ça. Souvenons-nous, bien avant nous, ils ont grandi, ils ont appris, nous ont transmis.
C'était une pièce de Christian Lavaux. Christian Lavaux, un Wendat de Wendake, qui a été le chanteur principal du spectacle Totem du Cirque du Soleil, écrit et mis en scène par Robert Lepage. Il a participé à différents spectacles, animateur et producteur du magazine culturel Chic Choc. Il remporte un prix Gémeaux pour cette télésérie jeunesse. Vous savez que Christian Lavaux aussi a déjà chanté en 2013 au légendaire Tonight Show de Jay Leno. Alors son album Son d'Aqua a été lancé en 2011 sous la direction musicale de Gilles Sioui. Eh bien, avec notre chroniqueuse voyage, Maude Carrier, la semaine dernière, on a parlé de Wendake, ce village Huron situé à 20 minutes de Québec. On vous en reparle aujourd'hui, mais vraiment pour... on s'arrête plus longuement sur l'expérience Lumina, ce parcours nocturne enchanté à la rencontre du peuple Wendat. Et on en discute avec Steve Gros-Louis, président de l'Office du tourisme Wendake, c'est-à-dire... Voilà, alors j'ai dit tantôt, j'ai peut-être dit Wendak, mais c'est Wendake, hein? Bonjour.
Coué-coué, ça va bien.
Ah oui, oui, coué-coué, effectivement. Alors, bonjour, bonjour. Eh bien, Steve Gros-Louis, justement, juste avant de parler comme tel du parcours, du sentier lumineux, là, Wendake, c'est vraiment une destination en soi, là. On en a parlé la semaine dernière, comme on le disait. C'est un lieu vraiment qui regroupe plein d'activités, musées et tout. On doit même y manger obligatoirement. Et puis... Ben, il y a des formules d'hébergement.
Ouais. Oui, je suis content que vous faites allusion, parce que vous savez, moi, mis à part le fait que je préside Tourisme autochtone, dans le fond, c'est que je suis propriétaire aussi du restaurant Sagamité, qui est en reconstruction à Wendake, qui est dans le vieux Québec. Mais oui, avec le musée, l'hôtel, et tantôt, en inspiration, vous faisiez jouer Christian. Christian a chanté pour nous un groupe traditionnel qui est Sandokwa, une troupe qui existe depuis 76, qui parcourt la planète, donc qui était au Pawa aussi de Wendake. Donc, ça m'a mis en ambiance la chanson juste avant.
Merveilleux, oui. Et puis bon, c'est ça, il y a des formules d'hébergement très intéressantes. En fait, c'est un immense complexe hôtelier qui a été inauguré il y a quand même 15 ans. Et comme sa popularité est croissante, ben là, il y a des travaux de rajeunissement aussi qui sont en cours, hein. Jusqu'en 2023 aussi.
Exactement, oui, des rajeunissements. Puis on a grandi aussi, on va avoir 25 unités supplémentaires à l'hôtel musée. Donc, on s'en fait une beauté au niveau de l'hôtel et on a grandi en effet. Oui, ça va être disponible très bientôt quand même.
C'est ça. Donc, Wendake, qui est la seule communauté Huron au Québec, située à 20 minutes là, de Québec. Donc, et puis, c'est un bel exemple, en tout cas, de tourisme autochtone en milieu urbain et un bel exemple aussi de tourisme durable. Hein. Vous avez tous vos projets, finalement, se font avec cet esprit durable également.
Oui, il faut savoir que le peuple Wendat, même à l'arrivée des premiers Européens, on était un peuple qui était très commerçant. On parcourait et on était déjà ouvert sur le commerce, mais aussi avec une grande diplomatie. Donc, c'est pour ça. Puis, je pense que ces qualités-là ont demeuré tout au long des décennies, des centaines d'années qui ont passé par la suite, en effet.
Mm-hmm, c'est ça. Le tourisme est une activité économique qui a été bien développée par votre communauté. Bref, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez que le parcours nocturne enchanté est vraiment un attrait touristique formidable. Bon, d'abord pour les touristes, mais aussi pour nous. C'est vraiment une toute nouvelle activité depuis le mois de juin.
Oui, bien écoutez, ce projet-là, moi j'étais là d'ailleurs depuis les premiers balbutiements en tant que conseiller pour notre communauté, mais aussi en tant qu'artiste. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous parce qu'on cherchait une façon d'attirer les gens à venir nous visiter. Mais tu sais, on a notre Pawa qui est toujours le premier week-end de juillet. On a des activités tout au courant de l'année avec le musée, l'hôtel, comme vous l'avez bien dit en introduction. Mais on cherchait une façon d'introduire notre culture, mais avec la haute technologie d'aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, on s'est viré vers la compagnie Moment Factory, une compagnie de Montréal, une compagnie québécoise, pour venir faire de la projection en son et en lumière. Par contre, ce qui fait notre force par rapport, mettons, aux autres, vous allez me dire, ben oui, il y en a un à Quaticook, il y en a un dans Laurentides, puis il y en a un dans l'Ouest, il y en a 14 dans le monde. Et ce qui fait, je pense, notre distinction et qui fait notre force de notre Onoa Lumina, c'est qu'on raconte 4000 ans d'histoire. Donc, on ne part pas d'une histoire fantaisiste ou quelque chose de fantastique et on vient le projeter, mais on parle et quand vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez vos oreilles et vos yeux, ben vous découvrez le son, les chants traditionnels avec un appui, si on veut, un background sonore de Moment Factory.
D'accord. Et ça, c'est un projet, ben, d'abord, on est sûr de l'avoir pour au moins 10 ans, hein, ce parcours-là.
Oui, en effet, on a loué, nous, l'Office de tourisme, on a loué au Conseil de notre nation le terrain pour 10 ans.
D'accord. Et puis bon, est-ce qu'il y a des chances, ben, justement, que ce projet-là évolue aussi?
Oui, certainement. Nous, ce qu'on s'est mis dans notre, tu sais, on a un breaking point, excusez-moi mon anglicisme, à atteindre, et on aimerait d'ici 2 à 3 ans rouvrir des tableaux. Vous savez, il y a 7 tableaux présentement de disponibles dans l'expérience Lumina qu'on a, mais on aimerait éventuellement rajouter des tableaux si le succès continue puis va bien. Ben en effet, on va pouvoir agrandir cette expérience.
C'est ça. Il y a des sentiers qui étaient déjà existants dans votre à cet endroit-là. Donc, on a tout intégré les parcours qui étaient déjà existants avec de nouveaux parcours.
Ben, dans le fond, c'est que oui, il y avait des sentiers où des gens prenaient une petite marche, on passait à vélo, mais on a refait au complet, là. Je veux dire, tu sais, c'est le gravier qui a été mis, là, pour qu'on soit capable de quand même voyager avec certaines mobilités réduites. Donc, c'est aussi dur que de l'asphalte, mais on parcourt un sentier qui est beaucoup plus amélioré qu'il l'était parce qu'il était laissé, c'était un sentier sauvage autrefois, là.
D'accord. 50 minutes à peu près, la durée?
Oui, c'est entre 45 et 60 minutes, tout dépendant comment on va regarder le tableau. Tu sais, il y a des tableaux, j'en suis tellement fier parce que justement, je vous disais tantôt, mon groupe de danse, ce soit mon fils, mes filles ont participé au niveau visuel, au sonore. Donc, quand on arrive au sel étoilé, qui est le dernier, qui est la prochaine génération, bien souvent, les gens vont rester un peu plus longtemps puis vont écouter en boucle la chanson qui est chantée puis se laisser émerveiller par les étoiles. Donc, ça va varier entre les gens entre 50 à 60, 65 minutes, là.
C'est ça. Et ce qui est intéressant, comme vous le disiez, là, c'est vraiment qu'on a fait participer. Il y a eu une belle complicité avec Moment Factory. On a fait participer aussi des artistes de chez vous, vraiment. Alors, il y a une belle collaboration déjà.
Je suis content que vous m'ouvriez la parenthèse parce que je vous dirais, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, ça fait quand même 2 ans que j'étais dans le projet, mais depuis à peu près 1 an, on était deux artistes One Dat qui étaient tous les semaines en lien avec eux, puis on a rajouté 2 autres personnes après ça. Depuis janvier, on était rendu à 4 dans notre comité de conception. Et chacune des expériences, chaque chant, chaque chose qui a été choisie a été validée, autant de notre côté, de notre comité One Dat, si on veut, et avec Moment Factory. Fait que ça a été un beau travail en duo, de pair, côte à côte, pour avancer dans ce sentier fantastique qui est le Onwa Lumina, qui veut dire aussi, Onwa, chez nous, veut dire maintenant.
Ah, donc, c'est ça que j'allais vous demander.
Maintenant. C'est, on se sert du passé comme expérience, oui. On se sert de ce qu'on a, qui on était, oui. Mm-hmm. Mais maintenant, qui on est aussi. Et ça, c'est vraiment important de le dire.
Tout à fait. Donc, accessible aux gens à mobilité réduite, vous voulez opérer 200 soirs par année quand même, idéalement, là, du mois d'avril au mois de novembre. Puis entre ça, ben, il y a la maintenance des équipements, bien sûr, hein, c'est sûr. Et peut-être ouvrir aussi un parcours en hiver.
Exact. Ça va commencer de décembre jusqu'en avril. Il y aura un parcours en hiver, je peux déjà vous le confirmer.
Ah, c'est merveilleux. Eh bien, merci d'être venu nous en parler. Et puis, ben, ce sera un plaisir d'aller faire ce parcours, effectivement, donc à Wendake. Merci, Steve Gros-Louis.
Tiawan, onin, à la prochaine.
Merci. Eh bien, à vous tous, chers auditeurs, merci d'avoir été là. On se retrouve demain, même heure.